la stupeur dans laquelle m'avait plongé la fameuse nouvelle radiodiffusée du 6 août 1945. Je n'ai pas pu, durant de nombreuses années, la surmonter ou m'en défaire par la parole. C'est seulement au début des années 1950 que je me suis contraint à coucher quand même sur le papier quelques phrases sur cet objet. Mais ce que j'ai alors rassemblé était à peine plus que la confession de mon incapacité, non, de notre incapacité, à seulement nous représenter ce que nous avions mis en place ou produit. Gunther Anders, Hiroshima est partout.
Ce qui est intéressant avec la pensée de Gunther Anders, c'est qu'il va vraiment ressentir la violence de l'explosion atomique dans son corps. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas su pendant des années réagir en tant qu'écrivain, en tant que philosophe. Il est resté muet. Il dit lui-même qu'il n'avait pas saisi la monstruosité de l'événement et qu'il lui a fallu du temps pour accepter l'ampleur de cette monstruosité. C'est quelque chose qui dépasse ses propres capacités d'imaginer l'événement. C'est au-delà de ce qu'il peut se représenter en tant que philosophe, alors que c'est un philosophe de la technique. Il réalise que l'homme a créé un engin de destruction capable de détruire en moins d'une seconde 200 000 habitants. Et il raconte cette anecdote quand il est invité à un voyage à Hiroshima pour faire un discours sur la catastrophe nucléaire. Il est à 10 000 mètres d'altitude dans l'avion et il regarde le Japon tout en bas et il dit « Moi aussi, j'aurais pu lâcher la bombe ». À partir du moment où on a déshumanisé l'homme, à tel point qu'il devient simplement un instrument du prolongement de la destruction industrielle de l'atome, l'homme disparaît. Il devient une quantité négligeable.
La question est de savoir comment nous avons géré cette terrible puissance que nous avons entre les mains et que nous avons créée, puisque nous avons fabriqué ces bombes. À un moment donné, il y avait plus de 70 000 bombes nucléaires dans le monde. De quelle folie s'agit-il? Et qu'avons-nous essayé de faire pour tempérer l'accumulation d'une telle puissance destructrice sur la planète? Finalement, je crois que la bombe a joué un double rôle, assez contradictoire. D'une part, après le milieu des années 50, les grandes puissances, principalement les États-Unis et l'Union soviétique, se sont rendues compte qu'une guerre entre elles serait catastrophique. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'elle a sans doute aidé à empêcher une nouvelle guerre mondiale. Mais d'un autre côté, la bombe a été l'origine de très grandes tensions. Il y a eu des moments où nous avons frôlé la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y a eu Berlin, la crise des missiles à Cuba. Donc l'impact est assez contradictoire.
« 12 janvier 1946. » On ne sait trop que penser de moi depuis le 6 août. Ce jour où le monde est entré dans l'âge atomique, l'effroi a rapidement laissé place à la fascination technologique. Comme si tous, abasourdis, n'arrivaient pas à prendre la mesure de ce qui pourrait être aussi l'âge de la fin de l'histoire. Comme si soudainement, le monde avait pris un coup de vieux, conscient de s'être rendu mortel en une fraction de seconde. Seul un certain Albert Camus a trouvé les mots. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Beaucoup estiment qu'il a raison, mais ils se sentent démunis. Comme si les humains ne parvenaient plus à me maîtriser. Quels imbéciles, ils me font bien rire. J'ignore si on a entendu ce Camus à Washington et à Moscou, mais on s'interroge, enfin. On demande à reprendre le contrôle. Qu'allons-nous faire de moi? Certainement mes géniteurs auront envie de me garder près d'eux, jalousement. Vais-je rester en vie? Va-t-on me tailler en pièces? les prochains mois seront décisifs. L'équilibre du monde pourrait en être changé.
Journal de la bombe. Une vie atomique. Guerre froide. Le régime de la peur. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
Pendant la guerre, une campagne très intéressante et d'une grande importance a été menée par le grand physicien danois Niels Bohr.
David Holloway.
Il s'agissait de réfléchir à la manière de gérer la bombe après la fin de la guerre. Bohr a rencontré Churchill, puis Roosevelt. Il leur a recommandé d'aller voir Staline et de lui dire « Nous sommes en train de mettre au point une bombe extrêmement destructrice. Comment allons-nous la gérer après la guerre? Que pouvons-nous faire ?» Mais ils n'ont pas écouté ce conseil. Après le largage de la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, Truman et les premiers ministres britanniques et canadiens ont contacté Staline afin de lui proposer de mettre en place une commission sous l'égide des Nations Unies chargée d'examiner les problèmes soulevés par la bombe, y compris son élimination. Une commission composée de 12 pays membres a été réunie, qui comprenait bien sûr l'Union soviétique et les États-Unis.
The United States proposes the creation of an international atomic development authority, to which should be entrusted all phases.
Les États-Unis sont dans une situation où c'est le seul pays qui a cette arme-là et ils veulent le rester. La priorité, l'obsession, c'est de faire en sorte que l'Union soviétique ne développe pas l'arme.
Emmanuel Maître.
Donc immédiatement, il va y avoir une réflexion et une proposition. Au niveau des Nations Unies, c'est d'ailleurs les premiers travaux des Nations Unies vont porter sur le désarmement, avec l'idée qu'il faut contrôler ces technologies au niveau international, que seul un organisme purement multilatéral peut être en charge des technologies nucléaires, que ce soit civiles ou militaires, et puis ensuite les États-Unis pourraient s'engager à détruire, éliminer leurs armes nucléaires, en échange du quoi tous les États s'engageraient à ne pas le développer. C'est le fameux plan Baruch qui est présenté aux Nations Unies en 1946.
And including one, managerial control or ownership of all atomic energy activities potentially dangerous to world security.
On est en 1946, la guerre froide est en train de commencer. Les soviétiques sont déjà jusqu'en Allemagne de l'Est, évidemment.
Harry Bernas.
Donc les tensions sont présentes et à ce moment-là, Baruch choisit de modifier le plan Acheson-Lilienthal auquel avait tant contribué Oppenheimer. Et introduit une clause qui est « Les Américains ont la possibilité de développer leurs travaux, les autres sont soumis à un contrôle d'un organisme international dirigé par les Américains, puisque les Américains ont le maximum de compétences et ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de faire une bombe. » Donc Molotov, qui était le négociateur là, a dit « il n'en est pas question ». Si vous introduisez une clause comme ça, c'est très clair que vous ne souhaitez pas que ça se réalise, donc on ne le fait pas. C'était une possibilité de créer une logique de négociation dans laquelle la guerre atomique en tout cas, était totalement exclue. Et en particulier, on pouvait arriver à ce que proposaient les soviétiques à l'époque, c'est l'interdiction absolue des armes, à commencer par le fait que les gens acceptaient de ne pas les développer et après on cherchait des moyens internationaux de contrôle. Bon, c'est les conditions de la guerre froide, on peut dire Staline, c'était pas quelqu'un de très fiable sur les négociations, etc. On peut sortir toutes sortes d'arguments qui ont leur valeur. On est passé à côté au moins d'une tentative et d'une optique dans laquelle ce qui dominait, c'est pas la construction des armes, c'était au contraire la non-construction des armes.
Our object is not aggression. We need not become militaristic, but we must keep our army, our navy, our air force at ready strength. We must back up our team for security.
En décembre, il était clair qu'aucun accord ne serait trouvé sur la question de la bombe. Les Américains ont proposé le plan Baruch, qui exigeait des Soviétiques qu'ils acceptent un système de contrôle international de l'énergie atomique avant que les États-Unis abandonnent leurs armes. En réponse, l'Union soviétique a présenté un plan qui disait ceci. Une fois que vous aurez renoncé à vos armes, nous pourrons établir un système de contrôle international pour empêcher les pays d'acquérir la bombe. Des années plus tard, le négociateur en chef soviétique, Andrei Gromyko, devenu ministre des Affaires étrangères, a dit que Staline pensait que Truman ne renoncerait pas à sa bombe et que par conséquent, il lui en faudrait une également. Il avait sans doute raison. Mais il y avait cet espoir qu'on puisse établir un contrôle international de l'énergie atomique. Et cette idée a été soutenue par Niels Bohr, puis Oppenheimer, après la guerre. Si on revient aux discussions de 1946 aux Nations Unies, c'est à ce moment-là qu'on a connu la négociation la plus directe sur un éventuel contrôle international. Robert Oppenheimer et Niels Bohr s'étaient dit que si on pouvait mettre en place un contrôle de l'énergie atomique, cela démontrerait que dans un domaine de la vie internationale, il n'y a ni souveraineté, ni rivalité, et que cela aurait un effet important sur la politique internationale en général. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Dans un monde où les États étaient soucieux de leur souveraineté, comme l'étaient l'Union soviétique et les États-Unis, il allait être difficile de parvenir à un accord où il devrait renoncer à une chose qui allait renforcer la puissance de l'État. Il s'agissait d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, mais c'était trop ambitieux.
Bruno Villalba.
La question atomique, elle caractérise bien notre rapport à la technique dans notre société. Elle caractérise bien aussi notre difficulté à construire une morale à l'ère atomique. La première bombe qui tombe sur Hiroshima, Gunther Anders explique, devant l'ampleur de la catastrophe, devant l'absurdité de la destruction immédiate de 200 000 personnes avec une seule bombe, eh bien, dit Gunther Anders, nous aurions dû réagir moralement. Comme nous avons réagi sur les camps, nous avons mis en place le procès de Nuremberg, plus jamais ça. Et là, dit Gunther Anders, trois jours après, sur Nagasaki, on reproduit l'acte. Non seulement on le reproduit, dit Gunther Anders, mais on va amplifier la bombe, on va la rendre plus opérationnelle, plus technique. Autrement dit, vous voyez bien que non seulement dès la première fois, on n'a pas su mettre en place un dispositif moral qui nous empêche d'utiliser la bombe, mais une fois qu'on a vu l'ampleur de la catastrophe produite par la bombe, rien ne nous a empêché de réutiliser la bombe. Et c'est là-dessus qu'insiste Gunther Anders. Ce qui est plus dramatique encore, dans l'échelle du tragique, évidemment, c'est absurde hein, ce que je vais dire, mais dans l'échelle de la monstruosité, Nagasaki, c'est encore pire qu'Hiroshima. Puisque c'est la répétition de la destruction. D'où la conclusion logique de Gunther Anders, si nous n'avons pas su nous en empêcher une fois, rien ne nous empêchera de le faire une troisième fois. Le problème, c'est que la troisième fois, ce ne sera plus la même puissance de l'explosion atomique, et ça ne sera pas les mêmes conséquences de l'explosion atomique, puisque là aussi, on assiste à une industrialisation, c'est ce que Gunther Anders décrit dès 1956, une industrialisation de la production de la bombe, parce que c'est un processus technique.
L'URSS a la bombe. La nouvelle est maintenant officielle et M. André Labarthe, observateur français à Bikini, en tire les premières déductions.
Il y a deux mois, le 29 juillet 1949, le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle l'URSS a réalisé la bombe, c'est-à-dire avec laquelle elle a dû construire les immenses laboratoires, les usines gigantesques, les Oak Ridge, les Los Alamos, les Hanford, que j'ai longuement visitées. Désormais, le rythme avec lequel la Russie produira des bombes atomiques dépend uniquement de l'ampleur des moyens industriels qu'elle entend y consacrer.
La guerre froide ne débute pas par un acte en particulier. C'est quelque chose qui se développe. On considère qu'elle s'ouvre en 1945, lorsqu'il est devenu clair qu'il y avait des divergences significatives au sujet de l'organisation de l'Europe, entre d'une part Staline et de l'autre Roosevelt et Churchill. Staline souhaitait s'assurer que la Pologne serait sous le joug de l'Union soviétique. Je pense que la bombe a eu un impact majeur sur les relations entre l'Union soviétique et les États-Unis. Du côté des Soviétiques, elle était vue comme une chose inutile et dirigée contre eux. La meilleure preuve est que deux semaines après Hiroshima, Staline a repris le petit projet atomique en cours pour en faire un programme de grande envergure. Et tout cela dans un pays qui avait énormément souffert. C'était pris très au sérieux en Union soviétique. En 1951, le projet employait à peu près 600 000 personnes.
Ils savaient comment on devait faire.
Yves Lenoir.
Ils avaient déjà commencé les travaux à Mayak, dans l'Oural, près de Kishtim, ou de Tchelabinsk, c'est une plus grande ville, ont commencé en 1944. Et ils avaient deux grands espions qui avaient envoyé les données précises sur la bombe gadget. Donc les Russes avaient les deux informations capitales, l'ensemble des informations scientifiques par Klaus Fuchs, et la partie la plus délicate sur le plan technologique et d'ingénierie, c'est le dispositif de gadget. Ils avaient l'information.
L'espionnage a joué un rôle très important au début du projet soviétique. Et l'espion le plus important, bien qu'il y en ait eu beaucoup, était Klaus Fuchs. Fuchs était un réfugié allemand, fils d'un pasteur luthérien qui était devenu communiste en Allemagne, pays qu'il avait fui pour rejoindre l'Angleterre, où il avait passé un doctorat en physique. Lorsque les Britanniques ont rejoint le projet Manhattan, Fuchs est allé aux États-Unis. En 1944, il a rejoint la division théorique du projet Manhattan à Los Alamos, où il a eu accès au plan de la bombe. C'est ainsi que la première bombe soviétique, dont l'essai a eu lieu en août 1949, était une copie de la bombe américaine qui a été larguée sur Nagasaki.
Là, je pense que les savants se sont peut-être un peu trompés, car on s'imaginait que la Russie, avec son potentiel industriel très affaibli par la guerre, prendrait pas mal plus de temps. Les Américains ont pris 3 ans, qu'on pensait que les Russes en prendraient au moins 5, et on parlait souvent de 10 ans. Et en réalité, les Russes ont pris tout juste 4 ans. Et je pense donc qu'il ne faut pas trop non plus se fier maintenant aux prédictions que l'on fera sur le rythme de production des bombes russes, ni même le temps qu'il faudra que les Russes prendront pour atteindre l'efficacité que les Américains ont.
We're living in a country that's the finest place on earth, but some folks don't appreciate this land that gave them birth. I hear that up in Washington they're having an awful fuss, cause communists inspired...
Came as a big shock and it triggered...
La bombe soviétique a été un choc aux États-Unis. Cette explosion a engendré des décisions importantes. Tout d'abord, il y a eu l'augmentation de la production de matières fissiles pour la fabrication des armes nucléaires. Et puis, il y a eu l'élaboration du rapport numéro 68 du Conseil de sécurité nationale, qui était une sorte de plan stratégique de la guerre froide, marqué par une augmentation significative des forces militaires américaines. Enfin, il y a eu la décision de mettre au point la bombe H.
Les Américains étaient persuadés que les Russes mettraient au moins 10 ans avant de réussir leur coup, parce qu'ils savaient pas qu'ils avaient été espionnés et que les Russes avaient tous les secrets importants. Donc jusqu'en 49, que dalle. Et au point que Teller, qui n'arrêtait pas de plaider pour la bombache, n'était pas écouté. C'est-à-dire que sous le gouvernement, les deux mandats de Eisenhower, on est passé de 50 bombes et quelque chose comme quelques mégatonnes. Hein, je crois que c'est 2,5 mégatonnes au total, c'était des bombes A. On est passé à 18 000 bombes, ça a été une course. Et les installations industrielles monstrueuses débitaient les bombes. On en fabriquait aux États-Unis 25 par semaine. C'est 5 par jour ouvrable.
You and I know that it's the most productive nation on Earth, that we are richer by any standard of comparison than is any other nation in the world. We know that we have great military strength, economic, intellectual.
Donc, indéniablement, pendant les débuts de la guerre froide, il y a eu course aux armements au niveau des programmes scientifiques, mais en termes de stratégie, c'est vraiment un facteur secondaire. C'est pas ça qui détermine les rapports de force entre Américains et Soviétiques.
Frédéric Glorian.
C'est-à-dire que les Américains ont quelques dizaines de bombes qui sont hors des mains des militaires, sous l'effet des volontés de post-Hiroshima de Truman. Donc il y a une confidentialité absolument démentielle autour de cet arsenal nucléaire. Truman ne sait pas combien exactement il y a de bombes. Enfin, il semblerait qu'il y avait une compartimentalisation de la circulation d'informations sur les armes nucléaires qui était hallucinante et incohérente avec l'idée d'une utilisation concrète de la bombe dans des stratégies. Ça, c'est les premières années de la guerre froide. Côté américain, il n'y a pas d'incorporation de l'arme nucléaire dans les stratégies très poussées. Dans les années 49-50, on est encore dans des scénarios où, en cas de guerre, ben, il y aurait une invasion massive de l'URSS à laquelle on ne pourrait pas résister en Europe. Même, y compris en recourant aux quelques moyens nucléaires qu'on a, on ne serait pas capable de stopper la force, le cœur de la force soviétique, ils avanceraient. Et il faudrait se lancer à partir des marges, Angleterre, Afrique du Nord, dans une difficile reconquête des territoires continentaux qui auraient été pris par l'armée rouge. Les plans de guerre de ces années-là, c'est un petit peu une variante de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale.
All the world knows we Americans are constructive, not destructive. There is no choice in the matter. Let us build a bomb.
Il y a eu des évaluations, des projections sur le plan militaire aux États-Unis. Dans un fameux rapport de 1949, il a été démontré que s'il devait y avoir une guerre entre les deux pays, la bombe atomique américaine ne permettrait pas aux États-Unis de gagner la guerre, car l'Union soviétique avancerait en Europe de l'Ouest et envahirait le territoire. Donc, d'une certaine manière, une guerre déclenchée en 1950 aurait été comparable à la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis et le Royaume-Uni auraient essayé de reprendre position sur le continent. Il y aurait eu des affrontements, mais il n'y aurait pas eu suffisamment de bombes pour décider du sort de la guerre. Certains disaient alors, lançons une guerre préventive, comme si on pouvait larguer quelques bombes comme ça. À un moment donné, Churchill et Russell étaient favorables à des bombardements préventifs. C'était en quelque sorte le syllogisme suivant. Puisque nous sommes des ennemis, qu'ils sont communistes et que nous aimons la liberté, que tôt ou tard une guerre aura lieu, alors pourquoi ne pas la mener tout de suite? Nous disposons de la bombe atomique et pas eux. Mais c'est quelque chose qui a été rejeté.
It is my decided opinion that the United States of America should immediately begin the construction of the H-bomb.
We should manufacture and produce the H-bomb in quantity.
The Russians will try it anyhow. And should they learn the secret of its manufacture before we do, the life and security of all freedom-loving people will be in danger.
I think the Cold War consists of
Je pense que la guerre froide dépendait de plusieurs facteurs. L'un militaire, l'autre idéologique. qui était à mon avis très important. Et enfin, géostratégique. Le facteur géostratégique était aussi très important, évidemment, avec la révolution chinoise. Mais c'était en Europe que l'essentiel des armes nucléaires était déployé, et où la confrontation militaire entre l'Union soviétique, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest était la plus directe.
And initially, when NATO was set up in 1949, and then
dès l'origine de la création de l'OTAN en 1949, l'objectif était de renforcer les forces armées conventionnelles américaines en Europe de l'Ouest. Mais sous Eisenhower, il a été décidé que ça coûterait trop cher. C'est donc à ce moment-là que l'accent a été mis sur les armes nucléaires. Eisenhower craignait qu'un niveau de dépenses militaires trop élevé entraîne une forme de dictature aux États-Unis. Les armes nucléaires coûtaient moins cher, donc la doctrine de l'OTAN est devenue essentiellement nucléaire. En d'autres termes, si l'Union soviétique et ses alliés devaient attaquer l'Europe de l'Ouest, l'OTAN riposterait avec des armes nucléaires. Et ça, c'était crédible avant que l'Union soviétique ne puisse utiliser des armes nucléaires contre les États-Unis. Mais à partir de la fin des années 1950, la question commence à se poser. Si le pacte de Varsovie nous attaque, allons-nous riposter avec des armes nucléaires? On entre alors dans des questions de doctrine très complexes au sein de l'OTAN. À savoir, est-ce véritablement crédible de dire que les États-Unis vont utiliser l'arme nucléaire alors que l'Union soviétique en est également dotée?
C'est d'abord une nouvelle arme.
François Hesbeau.
Ce n'est pas, c'est une arme qui va apporter la paix parce que sa capacité de destruction étant infinie va amener les êtres humains, l'humanité, à une plus grande sagesse. La notion que le nucléaire serait une sorte de super-artillerie, c'est ça qui occupe le devant de la scène. L'idée de dissuasion ne dominait pas du tout le paysage. On était dans une arme d'emploi, puisque Hiroshima et Nagasaki ont réellement existé. Pendant les années 60, en Europe, il y avait plus de 10 000 charges nucléaires tactiques de part et d'autre du rideau de fer. Ce sont des chiffres qui n'ont aucun sens du point de vue du statut. C'est les chiffres qui étaient justifiés par les responsables américains et soviétiques par la possibilité que ces armes pourraient faire la décision sur le champ de bataille. Donc dans une logique d'emploi, dans une logique militaire, plutôt que dans une logique de dissuasion et de stratégie ou de stratégie politique.
Décembre 1953. Le président Eisenhower a fait un grand discours aujourd'hui. Il a dit que l'atome, on pourrait également le désintégrer pour faire de l'électricité et des tas d'autres choses qui pourraient aider des pays à se développer. Finalement, on serait tous des frères. Le timing n'est pas mauvais, mais il faudrait qu'il en parle en privé avec les camarades. Car moi, depuis la venue au monde d'une enfant dégénérée kazakh, je ne sais plus où donner de la tête. Les soviétiques l'ont dopée. Elle pèse 400 kilotonnes. Un vrai millefeuille de combustible. Avec toutes ces nouveautés, je suis un peu perdu. J'ai 8 ans et je suis sans cesse dépassé. C'est une course effrénée. Le président lui aussi semble un peu paumé. J'ai bien écouté son discours. Atome pour la paix à l'ONU. Il a commencé par dire que j'étais plus puissante que jamais, mais qu'on pourrait aussi coopérer pour la paix. Je n'ai pas compris où il voulait en venir. Il n'arrête pas de me solliciter. Je cours à droite, à gauche,
Je me démultiplie, je ne sais plus trop où j'en suis. Hier, il m'a demandé d'aller dans les îles de Montebello pour faire plaisir aux Anglais. Bientôt, je dois retourner dans le Pacifique, sans compter que j'ai été contacté par les Chinois et les Français. Je préfère ne pas en parler au président. Il serait déçu. Surtout à l'heure où il veut désintégrer l'atome pacifiquement.
En 45, on est horrifié par Hiroshima et Nagasaki, mais on est aussi encore assez émerveillé par toutes les applications civiles que peut avoir le nucléaire. Donc beaucoup de pays veulent développer ces filières-là.
Emmanuel Maître.
Ces États ne sont pas forcément intéressés par l'arme nucléaire, mais ils peuvent être intéressés par l'énergie nucléaire. C'est tout le problème de la prolifération, hein, bien sûr, c'est que pour empêcher un pays d'accéder à l'arme nucléaire, il faut contrôler son cycle civil du nucléaire qui peut servir pour de l'énergie, pour tout un tas d'autres usages pacifiques. C'est en tout cas le constat que fait l'administration Eisenhower. Et c'est pour ça qu'ils vont développer le programme Atoms for Peace en 1954, en se disant qu'il faut peut-être mieux coopérer un petit peu avec les États pour mieux contrôler ce qu'ils font également, plutôt que de les laisser en fait développer l'ensemble du cycle, enrichir eux-mêmes l'uranium, etc. Donc en 54, on change d'approche aux États-Unis, on va ouvrir les vannes de la coopération nucléaire sur l'aspect civil. Donc c'est vraiment le nouvel état d'esprit qui va se mettre en œuvre sous l'administration Eisenhower, qui coïncide également avec quand même le début de la course aux armements.
Mon pays veut être constructif et non pas destructeur.
Dwight Eisenhower, 1953.
Son objectif est de nous aider à sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. De trouver le moyen de faire évoluer les esprits des hommes, d'où qu'ils soient. Leurs espoirs et leurs âmes, vers la paix, le bonheur et le bien-être.
Jusqu'à ce que l'Union soviétique acquiert l'arme nucléaire, on est plutôt sur une logique de super-arme conventionnelle, dans une logique d'utilisation comme ça s'est passé sur le Japon, donc de frappe stratégique dans le cadre d'un conflit. Ensuite, c'est vraiment au début de l'administration Eisenhower qu'on va avoir cette réflexion doctrinale sur le fait que l'arme nucléaire devienne une arme purement de dissuasion, avec la fameuse stratégie de destruction mutuelle assurée, MAD, l'acronyme MAD en anglais, où on se dit, à partir du moment où on peut chacun assurer sa propre perte, on peut pas lui planifier son utilisation pour des opérations militaires, et donc ça doit rester une arme uniquement pensée pour menacer de représailles massives sur l'adversaire. C'est le début de l'ère Eisenhower, quand on a aussi la capacité, par des bombardiers longue portée, puis par des missiles intercontinentaux, de frapper directement l'adversaire.
Les États-Unis savent que l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques n'est pas un rêve. Cette possibilité, déjà démontrée, est là, devant nous, aujourd'hui. Qui peut en douter ?
La politique nucléaire d'Eisenhower, en termes militaires, est très clairement une politique de montée en puissance de l'arsenal, sans précédent. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette doctrine, cette première doctrine de dissuasion.
Frédéric Blorian.
Et dans laquelle il fallait avoir une masse d'armes considérable pour être crédible dans cet effort de dissuasion. Donc, si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux dissuader, et en ta possession des milliers d'armes nucléaires qui te permettent d'éviter que l'adversaire lance une offensive.
Une des raisons pour lesquelles l'arsenal nucléaire américain devient pléthorique et au-delà de toute considération raisonnable, l'exemple qui me vient en tête, c'est le physicien Hans Bethe qui, dans les années 80, au moment où les Américains avaient 30 000 armes, a dit « c'est des niveaux totalement absurdes ». La raison pour laquelle on atteint des niveaux totalement absurdes, une des raisons en tout cas, c'est précisément que pendant un temps, les missiles ne sont pas assez précis. Et donc, pour cibler et pour détruire tous les silos ennemis dans un but de limitation des dommages si la dissuasion devait échouer, il devient nécessaire d'affecter à chaque point de cible plusieurs missiles. En disant, il y en a un qui va pas partir, il y en a un qui va rater la cible, donc si on en met plusieurs, à la fin, on va quand même la détruire, la cible. Il est essentiel d'être capable de détecter tous les silos ennemis pour pouvoir les cibler. Et donc, pour ce faire, il faut se rendre capable de surveiller la totalité de la surface de la planète à tout moment. Ce qui a été justement l'objet du projet satellitaire, au moins à partir des années 60.
Les soviétiques sont très en retard. La parité stratégique soviéto-américaine, c'est à la toute fin des années 60, après un programme de rattrapage massif côté soviétique décidé juste après Cuba. Donc il y a une supériorité stratégique considérable des Américains. En 61, il y a, grâce au progrès des images satellitaires, les Américains ont des preuves irréfutables que le programme balistique soviétique a un grand retard considérable, que c'est loin d'être les dizaines et centaines de missiles qu'on fabrique comme des saucisses qu'avait vanté Khrushchev. Donc le missile gap, c'était du vent. Et non seulement ils en prennent conscience, mais ils le publicisent. En octobre 61, il y a une déclaration d'un des dirigeants du Pentagone qui explique publiquement que les Américains ont une très large supériorité stratégique, et notamment en termes de missiles intercontinentaux. Et un des moyens que Khrushchev trouve pour compenser l'infériorité stratégique soviétique qui a été mise au jour à ce moment-là, c'est d'installer des missiles juste à côté du territoire américain à Cuba.
Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des
fusées. Côté soviétique, il y a une prise de risque absolument considérable et une espèce de presque de naïveté dans le fait d'envoyer un tel nombre de moyens nucléaires sur l'île de Cuba en pensant que ça allait passer inaperçu. L'idée, c'était de placer les États-Unis devant un fait accompli, de révéler au grand jour, au moment où c'était fait, l'existence de ces capacités opérationnelles sur l'île de Cuba à quelques minutes de portée des missiles soviétiques, du coup.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
On a quelques doutes sur le plan global de Khrushchev, mais l'idée c'était sans doute d'engager une grande négociation qui aurait peut-être impliqué Berlin sur cette question allemande, en fait, où il avait été un peu mis en échec par la fermeté des Occidentaux. Les deux chefs ont cherché quand même à communiquer l'un avec l'autre par de multiples canaux. Et au final, l'un et l'autre font des concessions qui permettent d'arriver à un accord qui évite l'escalade nucléaire. Concrètement, on se rend compte dans le dialogue au bord du gouffre qu'on ne veut pas y aller, l'un et l'autre. Le premier geste qui va dans le sens de cette concrétisation de ce terrain commun, c'est la mise en place d'un téléphone rouge. Déjà pour communiquer plus rapidement, il y avait des intermédiaires et donc du coup les messages mettaient du temps à arriver. Par contre, là où les historiens ont montré quand même qu'il y avait eu un danger considérable de guerre nucléaire, c'est l'escalade non voulue. Dans la chaîne de commandement, des erreurs de manœuvre, des malentendus, etc., il y en a eu toute une série qui font froid dans le dos. Il y a eu un sous-marin soviétique équipé d'une torpille nucléaire qui croisait au large de Cuba et qui a été pisté par des forces anti-sous-marines américaines. Et il a été coupé de sa communication avec les dirigeants soviétiques. Pendant un moment, à l'intérieur, ils ont cru que la guerre nucléaire avait été déclenchée, donc il y a eu des libérations sur l'emploi de leur torpille. Et il y en a un des trois qui convainc un des deux autres de ne pas appuyer sur le bouton, mais donc on n'est pas passé loin, en fait, d'un champignon nucléaire à un endroit. Et en situation d'incertitude et de crise, comme on y était à Cuba, ça aurait pu avoir un effet d'engrenage.
À Cuba, donc en octobre 1962, arrive un moment où Fidel Castro se dit « Très bien, le régime est mort. Sous peu, il les appelle les impérialistes, vont envahir ou bombarder. » Donc, il écrit à Khrushchev, et on a la lettre du 26 octobre 1962. Et dans cette lettre, il dit « Le régime est mort, mort pour mort. Je vous demande de nous laisser commencer la guerre nucléaire. » ou de la commencer en notre nom. Donc là, on a un cas où, si vous voulez, un dirigeant en situation de perte de régime imminente, le fait d'être menacé, ça lui fait peur, mais ça ne le rend pas du tout prudent. Ça l'invite à l'escalade. Donc on a des cas, si vous voulez, où des dirigeants, face à une menace à laquelle ils ont cru, ne se sont pas comportés comme la théorie de la dissuasion nucléaire l'attend.
À l'évidence, ni Khrushchev ni Kennedy ne voulaient escalader. Ça a servi comme base pour aller vers un contrôle des armements. Première étape, août 63, le traité d'interdiction sur les essais nucléaires atmosphériques. Et 68, le TNP. Et puis après, sous Nixon, les traités SALT, qui sont dans une logique de limitation, c'est-à-dire qu'on se met d'accord entre nous pour stopper à tel niveau l'expansion des arsenaux. Voilà. Alors il y a des tas d'arrière-pensées. Derrière, les clauses permettent aux Américains de développer les têtes multiples, c'est-à-dire qu'on n'accroît pas le nombre de missiles, mais on accroît le nombre de têtes par missile. Et donc en fait, l'expansion des capacités nucléaires continue malgré SALT.
octobre 1961. Il paraît que c'est bientôt la détente. De mon point de vue, je ne vois rien venir. Je dirais même que la situation se dégrade. On vient de reprendre les explosions à ciel ouvert. Dans le milieu atomique, on raconte que les Russes et les Américains vont réaliser pas loin de 120 essais l'an prochain. Pour une puissance de 170 millions de tonnes. 1962 serait alors l'année la plus noire pour la planète et ses habitants. Je ne comprends pas pourquoi on parle d'essai. Tout cela n'a rien d'approximatif, ni de pacifique. Je l'ai dit au président Kennedy, qui vient d'arriver. Je préfère exploser sous terre. C'est plus confortable. Les Soviétiques devraient y réfléchir. Chez moi, dans le Nevada, il fait bon. Mais en Nouvelle-Zemble, dans l'Arctique russe, il gèle quasiment toute l'année. Le président devrait en parler à Khrushchev avant qu'il ne fasse exploser sa bombe H. Elle l'obsède. Il paraît que c'est la plus puissante bombe de l'histoire. Tout ça va mal se terminer. Si c'est moi qui le dis, on devrait me croire.
La bombe H proprement dite, alors c'est un dispositif à plusieurs étages. Alors vous avez l'étage à fission qui va exploser. Et autour de cet étage à fission, vous avez un réflecteur de forme parabolique qui va recevoir les rayons X émis par l'explosion.
Yves Lenoir.
Et les concentrer sur... instantanément, hein, tout ça, c'est la, même pas la microseconde, va les concentrer à l'arrière de la bombe A sur une cible qui contient le deutérium, le tritium, ou même mieux, du lithium, parce que le lithium, sous l'effet des neutrons, va produire du tritium. Et donc, c'est une bombe à deux étages. Faites péter la bombe A, le flux de rayons X arrive sur la cible, qui est un mélange, en fait, de lithium et deutérium, avec un peu de tritium, et ça va instantanément dégager une énergie H. Mais vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez mettre un troisième étage. Autour de toute cette bombe, vous mettez de l'uranium naturel. Et tous les neutrons excédentaires vont le transformer en plutonium. Et ça, c'est la bombe à trois étages. C'est la Tsar Bomba. Et sa puissance est théoriquement illimitée. Teller et Ulam l'ont découverte aux États-Unis et Sakharov a découvert le même procédé en URSS. Et quand Khrushchev a demandé à Sakharov de faire une bombe de 100 mégatonnes, Sakharov a dit non, parce qu'il y aura trop de retombées. Alors on a fait une bombe de 57 mégatonnes. Alors celle-là, je crois que c'est 61 en Nouvelle-Zemble, au-dessus de l'archipel de Nouvelle-Zemble. Il y a une photo, c'est incroyable. L'onde de choc qui fait un anneau de vapeur à une distance de, je sais pas, 50 kilomètres, enfin, c'est effrayant. Largué par bombardier, là, je veux dire qu'ils avaient dû bien calculer leur coût et mettre un gros parachute pour retarder la descente de la bombe, parce que le temps que le bombardier échappe au souffle de cette bombe, il fallait... Vous ne pouvez pas la faire exploser près du sol, ça aurait été une pollution absolument invraisemblable.
Deux mauvaises nouvelles pour la paix ces jours-ci. Vous savez que, sauf accord rapide bien incertain avec l'Union soviétique sur l'arrêt des expériences atomiques, les États-Unis reprendront leurs tests nucléaires en atmosphère dans le Pacifique. La deuxième nouvelle qui est vraiment mauvaise, la Chine communiste a la bombe atomique et la fera exploser dans le courant de cet été.
David Holloway.
Le vrai changement, la véritable progression en matière de destruction a eu lieu au milieu des années 50, avec le développement de la bombe à hydrogène et des armes thermonucléaires. Ça a été un saut immense en matière de capacité de destruction et de type de guerre qu'on allait pouvoir mener. La bombe H était une arme beaucoup plus efficace. Avec une seule bombe, on pouvait générer autant de destruction qu'avec 2000 bombes conventionnelles.
After the end of the Cold War, the Russian nuclear weapons laboratory.
Après la fin de la guerre froide, le laboratoire des armes nucléaires soviétiques a mené une étude qui a conclu qu'une guerre entre l'URSS et les États-Unis en 1953, alors que les États-Unis disposaient d'environ 1000 bombes atomiques, n'aurait pas changé le résultat de la guerre. Alors que si elle avait eu lieu en 1957, quand les États-Unis disposaient d'armes thermonucléaires, l'Union soviétique serait devenue un désert radioactif. Donc, au milieu des années 50, il y a eu une évolution radicale de la puissance de destruction, d'abord du côté des États-Unis, puis plus tard de l'Union soviétique.
À ce moment-là, la condition de vulnérabilité devient indiscutable. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de missiles balistiques, tant qu'on délivre les armes avec des bombardiers, on peut toujours discuter sur le fait qu'on peut peut-être abattre le bombardier. Donc, on a encore une logique de on va abattre le bombardier et donc protéger les populations. À partir du moment où vous avez des missiles balistiques, à la fin des années 50, au début des années 60, ils sont couplés avec des ogives thermonucléaires à cette période-là. Là, ça devient strictement impossible parce que le missile balistique fait l'essentiel de son voyage dans l'espace extra-atmosphérique et il va à une vitesse 30 fois supérieure à celle d'un avion de ligne, ce qui rend son interception quasi impossible. Et donc, c'est ça que j'appelle la condition de vulnérabilité, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, si un tir nucléaire est ordonné, que ça soit de manière délibérée, inadvertante, accidentelle ou autre, ces ogives vont atterrir quelque part. On ne peut pas les intercepter. Alors, il va y avoir un projet, notamment de défense antimissile, mais ce projet de défense antimissile, peut-être avec l'exception de la période Reagan, il n'est pas conçu comme une alternative à la dissuasion nucléaire, mais comme un moyen de la rendre plus crédible. Et jusqu'à aujourd'hui, ces intercepteurs ont des énormes problèmes de crédibilité. Juste pour vous donner l'ordre de grandeur, et l'idée, c'est d'intercepter la balle avec une autre balle. Faire ça, c'est considérablement plus facile que d'intercepter un missile balistique en plein vol. En plus, les missiles balistiques, ils peuvent avoir aussi des leurres. On n'en envoie pas qu'un, et donc on peut détourner les intercepteurs vers d'autres choses.
Ça n'était pas réaliste, à mon avis, de posséder autant d'armes. Au milieu des années 1980, plus de 70 000 armes nucléaires étaient réparties à travers le monde. Et 90% d'entre elles étaient entre les mains des États-Unis et de l'Union soviétique. Les armes nucléaires jouaient un rôle très important sur le plan politique, mais également sur le plan psychologique. En d'autres termes, si on possède des armes nucléaires, on possédait le pouvoir politique et donc aussi une forme de puissance économique. L'Union soviétique, notamment dans les années 70, s'est dit « Si nous arrivons au même niveau que les États-Unis en matière d'armes nucléaires, alors nous serons une autre superpuissance. » Mais à l'époque, leur économie battait de l'aile. Donc, une forme de puissance n'en engendrait pas forcément une autre. Mais l'aspect psychologique était certainement important.
Comment défendre la paix en Europe ? Les pacifistes se mobilisent contre l'installation de missiles nucléaires américains sur le sol européen. Dans la capitale italienne, écoutez par exemple le témoignage d'un membre du comité italien pour la paix, Pietro Follena.
Le mouvement contre les euromissiles et leur installation en Italie est évidemment un mouvement bien plus large pour la paix et pour le désarmement, c'est-à-dire soit contre les Pershing et les Kreuz américains, soit contre les SSR de l'Union soviétique. Que les blocs militaires ne soient plus les seuls moyens pour défendre ou réguler la paix dans le monde.
On peut regarder ce qui se passe au début des années 80, c'est-à-dire au moment où justement on appelle ça la deuxième guerre froide, et donc les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont à nouveau très intenses, avec l'avion de la Korean Airlines qui est abattu, avec l'exercice Apple Archer. À ce moment-là, des opposants à la maîtrise des armements, comme Richard Pearl, vont faire la proposition de ce qu'on a appelé l'option zéro. Et leur logique, c'était, on va proposer une politique de maîtrise des armements tellement généreuse que les soviétiques ne pourront pas l'accepter, et donc on pourra les blâmer pour le fait qu'on ne fera rien. C'est essentiel, ça, parce que, littéralement, deux dirigeants soviétiques meurent coup sur coup, arrive Gorbatchev, et Gorbatchev choisit, comme politique soviétique, l'option zéro. Donc, les Américains sont en grande difficulté de refuser ce qui était leur propre proposition. Et c'est sur cette base-là qu'on va signer le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, le traité FNI, qui est le premier traité qui abolit une catégorie entière d'armement. C'est un moment où ça paraît strictement impossible à tout le monde.
Complet veston pour Mikhail Gorbatchev, robe longue noire pour Raïssa. Le leader du Kremlin n'a pas failli à la tradition vestimentaire soviétique à l'occasion du dîner officiel offert par Ronald et Nancy Reagan à la Maison-Blanche. Avant les toasts, un échange d'allocutions reprenant le thème majeur de cette journée historique. Le traité signé quelques heures auparavant n'est pas une fin en soi, mais un premier pas chargé de promesses dans la voie du désarmement nucléaire.
Traité FNI, premier traité de désarmement nucléaire de l'histoire de l'humanité, qui aboutit à la destruction complète de toute une catégorie d'armes qui sont les missiles à portée intermédiaire. Ce traité de Moscou de 1987, c'est vraiment le prélude à la fin de la guerre froide en termes nucléaires. On s'oriente vers une détente nucléaire.
Et là, les deux hommes étaient arrivés, chacun par des cheminements différents, à la conclusion qu'il fallait se débarrasser des armes nucléaires. Ils avaient été tétanisés parce qu'ils voyaient que ça prenait bonne tournure. Et l'entourage de Reagan, et je pense que c'était pareil du côté de Gorbatchev, n'a eu de cesse, pendant le sommet, d'essayer d'éviter que soient signés des engagements tant soit peu sérieux en matière de désarmement nucléaire complet. Non, on voyait surgir le spectre du désarmement nucléaire général. Ça ne faisait pas plaisir à ceux qui avaient bâti leur carrière dans les deux pays sur la parité nucléaire américano-soviétique.
C'est vrai que cette période qui fait suite à la chute du mur de Berlin, ou en tout cas qui commence à voir le jour à la fin des années 80, c'est vraiment une période un peu paradoxale, et c'est pour ça que les théoriciens ont parlé de second âge nucléaire, parce qu'on change de paradigme, on n'est plus dans cette logique de guerre froide, d'opposition de deux blocs relativement bien structurés, avec une logique de dissuasion mutuelle assurée qu'on connaît, etc. Ça décline parce que au moment où les États-Unis se retrouvent comme seule superpuissance, ben on se dit finalement ces arsenaux démesurés qui étaient là pour détruire des milliers de têtes nucléaires soviétiques, est-ce qu'on en a vraiment besoin, etc. Donc on va voir la diminution quand même des arsenaux de 80% à la fois en Russie et aux États-Unis. Même les autres pays de l'OTAN d'ailleurs, comme la France et le Royaume-Uni, vont aussi détruire une grande partie de leurs arsenaux. Donc ça, c'est une sorte de logique qui paraît inévitable à cette période-là. On se dit, on va réduire. On commence à parler peut-être d'élimination. Mais en même temps, les pays sont confrontés à ces nouveaux proliférants, à ces crises régionales dans lesquelles le nucléaire joue un rôle. Et donc, on le voit bien, ça les empêche de complètement se projeter vers un monde dénucléarisé. Donc plutôt une redirection de notre stratégie de dissuasion vers de nouvelles menaces, plutôt qu'une disparition d'armes nucléaires comme on aurait pu le souhaiter ou l'espérer à la fin de la guerre froide.
Gunther Anders explique qu'en fait, nous assistons à un renversement. Le renversement, c'est que nous sommes plus petits que ce que nous avons créé. Et ça, chez beaucoup de philosophes complètement empreints de l'exceptionnalité humaine, c'est difficile à accepter. Ça veut dire que nous serions dépossédés non seulement de notre autonomie d'homo faber, l'homme qui crée et qui donc maîtrise, au profit d'un homme qui serait assujetti à sa propre construction, la création qui échappe à son maître. La bombe exprime finalement une étape qui est celle que nous sommes incapables de maîtriser les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes créé.
9 novembre 1989. Ah, le mur est tombé, la guerre froide est finie. Je pensais pouvoir respirer un peu, ou bien que l'on mettrait un terme à mon existence. Je me demande souvent à quoi j'ai bien pu servir pendant toutes ces années. J'entends dire à préserver la paix. Je n'en suis pas certaine. Corée, Vietnam, Afghanistan. Combien ai-je vu mourir de millions de civils, de soldats, sous mon règne? Une drôle de paix aussi, oui, pour les victimes des 2400 essais nucléaires. Sans parler de la contamination de la biosphère. J'ai même entendu dire que des personnes étaient mortes de peur, suicidées, sous l'effet de la menace de mon emploi. J'ai bientôt 45 ans et j'en ai gros sur la conscience. En fille de militaire, j'aimerais bien moi aussi partir tôt, à la retraite.
Guerre froide, le régime de la peur. Avec David Holloway, Yves Lenoir, Frédéric Glorian, Benoît Pelopidas, Emmanuel Maître, François Hesburgh, Harry Bernas et Bruno Villalba. Voix de la bombe, Sarah Chaumette. Avec Laurent Lederer, Laurent Manzoni, Enzo Morales. Prise de son, Benjamin Thuot, Romain Lenoir, Amandine Grévoz-Frichoux et Marie-Claire Oumabadi. Mixage Frédéric Changenet avec Pierre Langlais. Archivina, Samia Jedi. Documentaliste, Anne-Lise Signoret et Antoine Vuilloz. Traduction, Élie Netquin et Elsa Viton. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Coordination, Christine Bernard. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Une grande traversée de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez.